bonne nouvelle d'après Luc, lecture suivie de l'évangile de Saint-Luc dans une traduction transposition de Vincent-Paul Toccoli, salésien de Don Bosco.
L'activité bonne est toujours cinématographique, j'allais dire. Et dès donc ses premières activités sur Damas, où il est venu pour quelque chose et finalement il fait autre chose, sa conversion, puis en même temps sans l'aide qu'il reçoit de Barnabé, et puis ses prêches, et puis sa notoriété tout de suite, il s'est un homme intelligent qui sait parler, qui a un peu de fanatisme, et puis tout de suite il y a tout le résumé de tout ce qui va être sa vie, c'est-à-dire que on le surveille, on va surveiller les portes, alors on le fait descendre par un coup fin. J'ai été voir les murailles personnellement, j'ai été voir la rue droite, j'ai été voir là où Ananias aurait habité, j'ai fait tous ces parcours à pied moi-même à Damas. Et puis tout de suite on le fait descendre par Jérusalem jusqu'à Césarée, et là il prendra le bateau, et puis on le fait repartir pour Tarse, d'où il vient. Bref, toutes ces péripéties sont vraiment une affaire picaresque, pourrait-on dire. C'est-à-dire que quand la foi se met à vous faire agir, elle vous emmène ainsi à droite, à gauche, vous fait esquiver des choses, elle rend votre vie animée, c'est-à-dire dangereuse, parce que elle vous fait courir des risques. Mais n'est-elle pas elle-même un risque? Écoutons la suite.
Pierre se déplaçait continuellement pour son travail apostolique. Il partit pour une nouvelle tournée qui le mena à Lydda, l'Aude. Il trouva là un homme du nom d'Aîné, allongé sur un grabat. Il était paralysé depuis 8 ans. « Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et fais-toi même ton lit. » Aîné se leva. Les gens de Lydda et ceux de la plaine de Charonne embrassèrent la foi nouvelle. Quelques kilomètres plus loin, à Joppé, à Jaffa, sur la côte, vivait une chrétienne Tabitha, ce qui veut dire gazelle en araméen. Elle était riche de son dévouement et de ses aumônes. Elle était tombée malade depuis peu et elle mourut. Après la toilette funéraire, on l'avait déposée dans la chambre haute. Les amis de Tabitha avaient appris la présence de Pierre à Lydda, et ils y dépêchèrent aussitôt 2 hommes porteurs de l'invitation suivante. « Rejoins-nous sans tarder. » Pierre les suivit sans poser de questions. Dès son arrivée, et sans s'attarder en souhait de bienvenue, on le fit monter dans la chambre haute où s'étaient réunies pour pleurer toutes les veuves de la communauté, lui montant tendrement les tuniques et les manteaux que confectionnait Dorcas, qui veut dire gazelle en grec, de son vivant. Pierre commença par faire évacuer la pièce, puis il s'agenouilla pour prier. Il se tourna alors vers le corps. « Tabitha, lève-toi !» Elle ouvrit doucement les yeux, et à la vue de Pierre, se redressa pudiquement sur son séant. Pierre, tout heureux, lui donna la main, la fit se lever, rappela tout le monde et la leur rendit vivante. Toute Jopé le sut en quelques minutes, et beaucoup d'habitants s'agrégèrent à la communauté. Pierre demeura assez longtemps à Jopé, chez un certain Simon, corroyeur de son état. Sur la terrasse, le soir, il contemplait la mer en pensant à son cher lac qu'il n'avait plus revu depuis combien de temps, en fait. Les événements qui vont suivre devraient avoir, sinon des lendemains immédiats, du moins un riche avenir, presque à l'insu de ceux qui allaient en être les protagonistes. Césarée maritime, ou Césarée sur mer, à quelques 50 kilomètres de Jopé, peut être considéré comme le port de Jérusalem. L'homme qui nous intéresse est un certain Cornelius, centurion de la deuxième cohorte italique en garnison dans cette ville. Corneille était de ces païens qui avaient touché la foi du Dieu d'Israël, lui et sa maison, c'est-à-dire sa famille, ses serviteurs, et jusqu'à ses relations de métier et d'amitié. Vivait fidèlement toutes les exigences de l'alliance relative à Dieu et à autrui. Il s'était converti au judaïsme sans aller pour autant jusqu'à la circoncision. On les appelait les craignants Dieu. Dans sa piété, Corneille comblait de largesse la communauté juive de la ville. Un jour, vers 3 heures de l'après-midi, il vit distinctement en vision un envoyé de Dieu entrer chez lui et l'interpeller. « Corneille !» Trois dans les yeux, Corneille répondit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?»« Tes prières et tes largesses sont des présents à la pensée de Dieu. Et maintenant, envoie des hommes à Jopé pour en ramener un certain Simon qu'on appelle Pierre. » Il est l'hôte d'un autre Simon, corroyeur, qui habite une maison près de la mer. Quand la vision cessa, Corneille, sans hésitation aucune, appela deux de ses gens de sa maison, ainsi qu'un soldat d'une grande piété, depuis longtemps sous ses ordres. Il leur fournit des renseignements et les envoya à Jopé. Ils atteignirent Jopé le lendemain. Pierre, de son côté, était monté sur la terrasse de la maison pour prier. Il était à peu près midi, heure inhabituelle pour la prière. Mais la faim le prit et il voulut manger quelque chose. On lui préparait quelque chose quand une extase le surprit. Le ciel s'était comme ouvert. Il en descendit un objet indéfinissable, une sorte de nappe immense qui, par 4 coins de base, venait se poser sur la terre. À l'intérieur, toutes sortes d'animaux, quadrupèdes, rampants, volants, etc., et une voix lui renjoignit. « Allez, Pierre, tue et mange !»« Jamais, Seigneur !» En bon juif, Pierre était terrorisé par une souillure rituelle. « De ma vie, je n'ai rien mangé d'immonde ni d'impur !» Pour la deuxième fois, une voix retentit. « Ce que Dieu a purifié, toi, ne va pas le déclarer immonde, non ?» Cela se renouvela 3 fois, et l'objet fut aussitôt enlevé dans le ciel. Pauvre Pierre, il était tout décontenancé. Il essayait en vain de s'expliquer ce que pouvait bien signifier sa vision quand justement les envoyés de Corneille, après s'être enquis de la maison de Simon, se présentèrent au portail. Ils durent crier pour s'assurer que Simon, surnommé Pierre, était bien l'hôte de cette maison. Lui était toujours préoccupé de sa vision. Mais l'esprit lui dit, « Il y a des hommes qui te demandent, descends donc tout de suite et prends la route avec eux sans te faire aucun scrupule. C'est moi qui les envoie. » Pierre descendit rejoindre ses gens. « Me voici, c'est moi que vous cherchez. Quelle est la raison de votre visite ?»« C'est à cause du centurion Corneille. » Pierre ouvrit des yeux ronds. « Il est censé devoir t'écouter parler de certains événements. » Pierre cessa d'interroger. Il ne comprenait rien du tout. Il les fit alors entrer et leur offrit l'hospitalité. Le lendemain même, il partit avec eux, accompagné de quelques frères de Jopé. Et le surlendemain, la petite troupe atteignit Césarée. Corneille, de son côté, les attendait avec émotion. Il avait convoqué sa parenté et ses amis intimes. Quand Pierre se présenta, Corneille vint à lui et tomba à ses pieds pour l'honorer. « Lève-toi, » dit Pierre en l'aidant à se relever, et tout en conversant avec lui, il entra dans la maison. Il découvrit une nombreuse assistance à laquelle il déclara aussitôt, « Comme vous le savez, c'est un crime pour un juif que d'avoir des relations suivies ou même quelques contacts avec un étranger. Mais à moi, l'émotion lui étreignit la voix. Dieu vient de me faire comprendre qu'il ne fallait déclarer immonde ou impur aucun homme. Et se tournant vers Corneille, voilà pourquoi c'est sans aucune réticence que je suis venu quand tu m'as fait demander. Mais maintenant j'aimerais savoir pourquoi vous m'avez fait venir. On se rendit compte que tout le monde était resté debout. On présenta à Pierre le siège le plus confortable et chacun s'assit et Corneille raconta son aventure. Il y a tout juste 3 jours, à 3 heures de l'après-midi, je priais dans ma maison. Soudain, un personnage aux vêtements splendides s'est présenté devant moi. « Ta prière a trouvé audience, Corneille, et de tes largesses, la mémoire est présente devant Dieu. » Le reste, tu le sais, maintenant nous sommes tous devant toi pour écouter tout ce que le Seigneur t'a chargé de nous dire.
Toujours des détails, des détails, des détails qui font que c'est un véritable script. De quoi s'agit-il? Vous l'avez bien deviné, il s'agit de déclarer libre de toute interprétation, de purification, tout ce que l'on mange. Et le repas est un lieu très important chez les Juifs et chez nous aussi. On n'invite pas n'importe qui à table chez soi. Mais là, en plus, cela prend tout un aspect rituel. Passer du temps avec des païens, les fréquenter, manger avec eux, est considéré comme une faute contre la loi. Or, sur la terrasse, il prie les midis, aurait une habituelle, on vous raconte le texte, il a faim. Et on lui prépare quelque chose en bas, il va descendre, mais tout d'un coup, la vision. Donc le système de relation avec Dieu, ici, comme tout à l'heure, est toujours d'une façon directe, on est en direct contact avec. Et toute cette grande nappe qui s'ouvre et où toutes sortes de bestiaux sont représentés avec l'ordre intimé par Dieu de manger va mettre à bas tout cela. Nous sentons qu'il y a un processus d'universalisation de la foi chrétienne qui n'est plus simplement le judaïsme qui lui observe encore un certain nombre de lois et Corneille, le Romain, était devenu juif, s'était converti. C'est les temps des débuts, il faut savoir qui on est, où l'on est. La rencontre avec Dieu et avec la foi ne nie pas notre identité, mais elle met en tout cas les dimensions culturelles de cette identité au second plan. Ce qui compte, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est tout ce que les actes vont rapporter, et surtout avec le triomphe paulinien auquel va se consacrer Luc dans sa deuxième partie.
C'était une bonne nouvelle d'après Luc, une traduction et un commentaire de Vincent-Paul Toccoli. Daniel Chavy a prêté sa voix pour la lecture. Merci et à bientôt.